Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Deux otages français libérés, deux soldats français tués. Bilan d'une opération au nord du Burkina Faso. Les otages avaient disparu lors d'un voyage au Bénin, à proximité il y a 15 jours. Une américaine et une sud-coréenne ont également été libérées dans cette opération. Les militaires qui ont trouvé la mort étaient deux officiers mariniers des commandos. Les détails, ce que l'on sait, car on a eu cette information il y a quelques minutes seulement avec Christian Chéneau dans un instant. La guerre commerciale Chine-États-Unis est repartie de plus belle, des hausses de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois à Washington. Quelle réplique à Pékin? Nous verrons cela. Et cette question, qui est en position de force? Réponse d'un économiste. Ce lobbying est-il légal? Quand le chimiste Monsanto et les agences de com qui travaillent pour lui fichent des politiques, dirigeants d'associations ou journalistes en fonction de leur influence supposée, de leur hostilité supposée au glyphosate, est-ce que c'est légal ou pas? Élément de réponse après les révélations de France 2 et du Monde, 200 personnalités, dont des journalistes de Radio France, ont été fichées. Dans ce journal encore, en ce jour du souvenir de l'esclavage, portrait de Marthe Adélaïde Modeste Testas. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Qui était-elle?
Alors rendons son identité à cette femme. Elle s'appelait Alpoissy, capturée enfant en Afrique de l'Est, esclave aux Antilles, affranchie à 30 ans. Elle est morte à 105 ans en Haïti.
Détails et portraits complets avec vous tout à l'heure. Le chantier de Notre-Dame ne se fera pas à la hâte, promesse du ministre de la Culture, alors que le projet de loi pour accélérer et simplifier ce chantier est débattu à l'Assemblée depuis ce matin. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal. Aujourd'hui, alors que les règles de l'appellation camembert de Normandie pourraient changer, mon Dieu, dégustation à l'aveugle, camembert pasteurisé ou au lait cru, c'est le critique gastronomique de France Inter, François-Régis Gaudry, qui joue le jeu.
C'est plat en bouche, ça tombe, il n'y a pas de complexité aromatique, il y a très peu de longueur. Là, vous voyez quand même immédiatement la différence. Il y a un petit peu d'amertume, il y a du sucre, il y a des arômes de beurre très lactés. Waouh !
Rendez-vous tout à l'heure pour mesurer les enjeux de cette actualité. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Météo France, du soleil dans le sud-est, pluie ou averse ailleurs?
Effectivement, une perturbation faiblement pluvieuse intéressante. Tout l'ouest du pays va gagner cet après-midi la région parisienne. Pluie les régions du nord ce soir et dans les autres régions prévoyez un temps instable avec des averses parfois orageuses. Seul le grand sud-est, car sud-est profitera d'un beau soleil.
A tout à l'heure pour les détails et nous parlerons du grand chelem des clubs anglais en Coupe d'Europe également avec Antoine Gignot. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Ils avaient disparu il y a 15 jours, le 1er mai, lors d'un voyage au Bénin. Deux touristes français, otages, ont été libérés avec deux autres personnes, une américaine, une coréenne. Mais l'opération de libération a son versant tragique. Christian Chéneau, deux militaires ont perdu la vie.
Effectivement, Bruno, un communiqué de l'Élysée vient de l'annoncer il y a quelques minutes. Donc, libération de quatre otages au Sahel, deux français, Patrick Pic et Laurent Lassimouyas, qui avaient été enlevés au Bénin le 1er mai dernier dans le parc animalier de la Panjari, au nord du pays. Deux autres otages, une américaine et une ressortissante sud-coréenne, ont également été libérés au cours de la même opération. Ces libérations sont intervenues à la suite d'une intervention militaire de l'armée française cette nuit au nord du Burkina Faso. Et au cours de l'assaut, deux officiers de la marine des forces spéciales ont trouvé la mort. Le président Macron leur a rendu hommage pour leur sacrifice et adressé ses condoléances à leur famille. Il s'agissait d'une opération commando menée en coopération avec les armées du Bénin et du Burkina Faso. Il y a eu aussi un soutien américain, a ajouté la ministre des Armées Florence Parly. Et à ce stade, aucune information n'a été donnée sur les ravisseurs qui détenaient les otages.
Merci Christian Chéneau. Si nous avons plus d'informations dans les minutes à venir, nous vous les donnerons évidemment. Autre information qui nous est parvenue en toute fin de matinée, le cargo qui était attendu, cargo saoudien attendu depuis plusieurs jours au port du Havre où il devait charger des armes, ce qui a provoqué une polémique. Eh bien ce cargo ne fera finalement pas escale dans le port français. Il n'y a pas de menace plus importante sur la croissance mondiale qu'une guerre commerciale Chine-États-Unis. Ce sont les propos du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui redoute des destructions d'emplois en France à cause de cette possible guerre. Alors guerre, le mot est peut-être fort, en tout cas le ton est monté d'un cran ces dernières heures. Donald Trump demande l'augmentation des droits de douane de 10 à 25% sur une très vaste série de produits chinois, la moitié de ce que Pékin vante à Washington. Quelle réponse à Pékin? Nous voyons cela avec la correspondante de France Inter, Dominique André.
C'est le ministère chinois du commerce qui a réagi immédiatement dans un simple communiqué pour dire que la Chine regrette profondément les sanctions américaines et n'aura d'autre choix que de prendre de nécessaires mesures de représailles. Mais pour le moment, Pékin n'a pas dévoilé ces sanctions. Sur les réseaux sociaux chinois, les commentaires nationalistes se répandent pour dénoncer la hausse des tarifs douaniers. Mais c'est la Chine qui gagnera, peut-on lire sur Weibo, le Twitter chinois. Dans les produits chinois importés par les États-Unis et frappés par les nouveaux tarifs douaniers, des matériaux de construction, du mobilier, de l'électronique grand public et des produits chimiques. Est-ce une manœuvre de fin de négociation de la part des Américains pour faire pression sur la Chine, s'interroge un diplomate à Pékin. Cette hausse des droits de douane intervient alors que le vice-président chinois Liu He est à Washington pour les négociations commerciales. Xi Jinping m'a envoyé une très belle lettre, a même révélé hier Donald Trump. La Chine qui entend mener à terme son plan de développement économique et technologique ne veut pas d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Pékin, Dominique André, France Inter.
Alors, question clé, alors que chacun montre ses muscles et même un peu davantage, qui est en position de force ? Plutôt les États-Unis, répond l'économiste Rémi Bourgeot. Il est économiste associé à l'IRIS.
L'économie américaine affiche des taux de croissance importants qui sont plutôt liés aux baisses d'impôts. Donc, effectivement, les États-Unis sont en rapport de force aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on voit Donald Trump accroître la pression sur la base, effectivement, de négociations tendues. Il faut voir la stratégie en général de Donald Trump. Quoi qu'on lui reproche, il faut lui reconnaître une capacité à quand même à peser les rapports de force et à aller jusqu'au bout quand il identifie un avantage en termes de rapports de force. Donc là, il va jusqu'au bout parce qu'il voit que les négociations sont plutôt à son avantage. Les États-Unis ont réussi à mettre une pression importante sur les grands groupes chinois. On a vu avec toute la polémique sur Huawei et sur les réseaux 5G. Donc, pour l'instant, sur le plan de l'image des débats internationaux, le gouvernement chinois est dans une situation assez difficile pour défendre sa position.
Un propos recueilli par Christian Chéneau et Rémi Bourgeot parlait des télécoms. C'est en effet un des sujets importants de fâcherie. La Chine fustige la décision américaine au niveau des télécoms de bloquer l'opérateur China Mobile aux États-Unis pour raison de sécurité. En France, mercredi, cela fera un mois depuis l'incendie à la cathédrale Notre-Dame. À chantier exceptionnel, projet de loi exceptionnel. Il est examiné depuis ce matin à l'Assemblée. Réduction d'impôts de 75% pour les dons jusqu'à 1000 euros. Un établissement public pour concevoir et coordonner les travaux. Et de possibles dérogations aux règles de protection d'urbanisme, de protection de l'environnement, de voirie, pour tenir le chantier dans le délai de 5 ans promis par le président de la République. Alors la France ne manque pas d'organismes, d'experts, de lois sur l'entretien et la restauration du patrimoine. Fallait-il des règles à part pour Notre-Dame ? À vouloir aller très vite, va-t-on trop vite ? Le débat à l'Assemblée ce matin, raconté par Laurent Sénéchal.
Franck Riester, le ministre de la Culture, met les pieds dans le plat à la tribune et évoque de lui-même l'appréhension principale des oppositions, celle du délai.
Alors oui, nous voulons aller vite. On nous a accusé d'aller très vite, trop vite. Mais c'est l'élan de générosité qui allait très vite. Ce sont les dons pour Notre-Dame qui ont abondé très vite. Et il fallait pouvoir y répondre tout aussi vite.
Ce délai de 5 ans est effectivement source d'inquiétude pour la députée France Insoumise Clémentine Autain qui a déposé une motion de renvoi en commission.
Une vieille dame vient de chuter et avant même de faire un diagnostic sur son état, on lui prescrit des anxiolytiques, un régime et on lui demande de préparer un marathon.
Motion balayée par la majorité, découragée, Mathieu Orphelin, ancien membre du groupe En Marche, implore le gouvernement de faire machine arrière sur l'article 9 qui permettrait de s'affranchir des règles environnementales.
C'est un chantier qui va être observé dans le monde entier. C'est un chantier qui doit être exemplaire sur tous les sujets. Et on commence par quoi ? Par dire que sur l'environnement, on va déroger à la réglementation existante. Ça n'a pas de sens.
Autre inquiétude partagée par les oppositions, de gauche comme de droite, article 8 qui prévoit de créer un établissement public dédié pour gérer les travaux, autrement dit court-circuiter le centre des monuments nationaux, craignent les opposants.
À propos de politique, dans un peu plus de deux semaines, les élections européennes et Emmanuel Macron et Marine Le Pen semblent se complaire à résumer cette élection à un duel. Voilà ce que disait le président hier au sommet européen en Roumanie.
Je mettrai toute mon énergie pour que le Rassemblement national ne soit pas en tête. Je suis le président de tous les Français, mais je crois très profondément que ce choix de l'Europe, c'est aussi celui de la nation et c'est celui qui me revient de défendre. Donc non à la désunion.
La réplique hier soir de Marine Le Pen.
Emmanuel Macron a choisi de ne plus être président de la République, mais d'être président de parti et en l'occurrence chef de campagne. Il transforme donc cette élection européenne en référendum pour ou contre lui. Dans ces conditions, il devra partir si effectivement il perd cette élection européenne.
Elle demande le départ du président de la République élu il y a 2 ans carrément s'il n'arrive pas en tête des élections. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Même au sein du Rassemblement National, on trouve que la patronne y est allée un peu fort.
Et oui, cette sortie choque en interne. Elle perd les pédales, reconnaît ce midi un élu, exactement comme dans le débat de l'entre-deux-tours. C'est complètement stupide, ajoute une autre. Ça montre encore une fois son amateurisme, ses limites. Aucun parti de gouvernement n'appelle le président à démissionner. C'est un fusil à un coup et il aurait fallu le sortir au bon moment, conclut un conseiller régional. Même pendant la crise des Gilets jaunes, elle s'était retenue et ne réclamait qu'une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais il fallait faire monter les enchères, justifie un de ses proches, saisir cette occasion pour bien installer le duel à 2 semaines du scrutin. Une stratégie qui divise. Je déplore cette sorte de hold-up, ce match à deux qui va priver les Français de débats de fond. C'est la réaction ce matin d'Hervé Juvin, 5e sur la liste du RN, invité de Public Sénat. Et pendant que les opposants, eux, jouent au boomerang. Et si à chaque fois qu'elle avait perdu une élection, elle avait quitté la vie politique, on en serait débarrassé depuis longtemps, s'amuse Benjamin Griveaux. Fallait s'y attendre, déplore un cadre de la campagne. Elle s'est laissée emporter et ça ne va rien lui apporter.
Encore plus de 15 jours de campagne. L'élection, c'est le 26 mai. Voici à présent un cas concret de lobbying. Monsanto, la firme produisant l'herbicide très controversé glyphosate, Monsanto a fiché une série de journalistes, de politiques, de dirigeants agricoles ou d'associations en fonction de leur influence supposée et de leur plus ou moins grande hostilité supposée au glyphosate et plus largement au sujet concernant Monsanto. C'est une révélation de nos confrères du Monde et de France 2. 200 personnalités fichées, 2 tableaux, les noms, les fonctions, les coordonnées des personnes et en ce qui concerne le glyphosate, 2 codes couleur, bleu, la personnalité est considérée comme une alliée, orange, elle est à surveiller. Cela remonte à novembre 2016, moment où était en débat le renouvellement de l'autorisation du glyphosate. Choquant ou pas, légal ou pas, premier élément de réflexion, Célia Kiré a joint l'UIPP, qui est une organisation de lobbying pour les pesticides. Eux aussi ont des fichiers, pas forcément constitués de la même manière, et ils assument. Écoutez Eugénie Pomaré, présidente de l'UIPP.
Tous ceux qui interviennent dans le débat public détiennent ce genre d'informations alors qu'elles sont publiques. Quels sont les journalistes qui peuvent avoir tel ou tel point de vue? À condition que ces informations soient publiques, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. On n'est pas H24 à écouter les informations, à lire tous les journaux et à lire tout ce qui se passe sur Twitter. Ça, je pense que n'importe qui peut le comprendre. Et donc, les agences qui fournissent ce travail passe du temps, justement, à regarder ce qui se passe dans l'espace médiatique et à informer les clients sur tel ou tel journaliste a fait tel papier, tel ou tel parlementaire a plutôt dit ci ou a plutôt dit ça. Pour moi, c'est une photographie qui est utile à ceux qui vont prendre une position ou défendre une position. Ça peut être pour, ça peut être contre, dans n'importe quel débat.
Donc vous avez besoin d'agences, finalement, qui vous aident à comprendre si certains interlocuteurs sont plutôt pro ou anti-glyphosate, pour le dire comme ça.
Sur n'importe quel sujet, le glyphosate ou autre, c'est une commande. Ça s'appelle de la veille. Si je veux être efficace dans le rôle qui est le mien, j'irai plutôt chercher les détracteurs que mes alliés.
Alors, Laurélie Carré, vous nous avez rejoint. Question maintenant, que des personnalités publiques soient l'objet d'un fichage. Est-ce que c'est légal ou pas?
Alors d'abord, le journal Le Monde a porté plainte contre X, une plainte qui est en cours d'analyse, nous dit-on, du côté du parquet de Paris. Ce que dit la loi, c'est qu'il est interdit de constituer des fichiers personnels sans l'accord des personnes concernées. Vous devez toujours donner votre consentement en sachant à quoi ces informations vont servir et avec la possibilité de vous rétracter à tout moment. Cela vaut encore plus si des données sensibles apparaissent comme l'orientation politique ou des convictions philosophiques, ce qui est le cas ici d'après l'avocat François Saint-Pierre, avocat du Monde. Il évoque notamment le cas de l'un des rédacteurs du quotidien qualifié dans l'un de ces 2 tableaux Excel de « puissante opposant à Monsanto ». D'après une autre avocate, spécialiste du numérique que nous avons interrogée, c'est différent si l'on parle d'une position exprimée publiquement par un ministre par exemple. Enfin, la plainte du Monde évoque une autre infraction, le transfert illicite de données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à l'UE ou à une organisation internationale, un délit qui est puni de 5 ans de prison et de 300 000 euros d'amende.
Alors vous parliez du Monde, il y a aussi 6 journalistes de Radio France dans ces fichiers et Radio France dit préparer aux côtés de ces journalistes une action en justice pour qu'une enquête détermine clairement les responsabilités. Parmi les politiques, il y a Ségolène Royal, elle appelle les autorités administratives et judiciaires à se saisir de ces affaires. Monsanto ne doit pas être le seul à se comporter de cette façon-là, dit l'ancienne ministre. Au lieu uniquement de se scandaliser, il faut rebondir sur cette révélation pour nettoyer ce système de lobbying. Depuis 2006, chaque 10 mai est la journée nationale de mémoire de l'esclavage et de son abolition en France. La cérémonie à Paris a lieu traditionnellement dans le jardin du Luxembourg. C'est là qu'Emmanuel Macron était ce matin. Mais plus intéressant que Paris, allons dans une des villes françaises qui a vécu de l'esclavage, du commerce triangulaire. Béatrice Duguay, aujourd'hui à Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne, près de la Bourse maritime, est inaugurée la statue d'une dame qui s'appelait Modeste Testas. Elle a vécu 105 ans et sa vie raconte un morceau d'histoire de France.
Elle naît vraisemblablement du côté de l'Éthiopie en 1765, kidnappée enfant par une tribu rivale de la sienne. Elle est adolescente quand elle est vendue sur la côte ouest africaine et expédiée vers la plantation de la famille Testas à Saint-Domingue, une famille qui incarne effectivement le commerce triangulaire. L'oncle est capitaine d'un bateau négrier. Pierre écoule à Bordeaux le coton et le sucre que son frère François fait cultiver aux Antilles. Al Poissy, baptisée sur la plantation, devient Marthe Modeste Adélaïde Testas, esclave favorite sexuelle du maître, qui meurt aux États-Unis quand elle a 30 ans. Par testament, il l'oblige à cette occasion à épouser Joseph L'Espérance, son esclave de confiance, affranchi lui aussi, mais il l'affranchit cette femme et il lui lègue surtout un domaine de 51 carreaux, quasiment 2 hectares, ce qui est énorme à l'époque. Elle va passer le reste de sa longue vie là-bas. Elle aura 9 enfants, elle meurt donc à 105 ans, non sans avoir pensé tous les jours à sa maman dont elle a été séparée brutalement enfant. Et si nous connaissons cette histoire, eh bien c'est que sa famille l'a transmise à l'oral, à l'écrit. L'un de ses petits-fils est devenu président d'Haïti au 19e siècle et il a consigné ce récit. Sa descendante actuelle, Lorraine Manuel Steed, a continué ce travail mémoriel pour rendre une histoire à l'histoire.
Mémoire de l'esclavage et l'esclavage moderne aussi. François Hollande avait lancé un plan contre la traite des êtres humains qui manquait de moyens mais avait au moins le mérite d'exister et qui est arrivé à échéance. C'était un plan triennal, il n'a jamais été relancé et les défenseurs des droits de l'homme, dont ONU et Conseil de l'Europe, demande qu'il soit désormais relancé. Avant le G7 classique, les dirigeants des grandes puissances réunis l'été prochain à Biarritz. Clin d'œil et opération de com' de militantes féministes. Jusqu'à ce soir à Paris, le G7 femmes, personnalités, ONG réunies pour faire des propositions, faire progresser l'égalité homme-femme, Claude Guibal.
À travers le monde, réduire les inégalités hommes-femmes, cela commence parfois par lutter contre les grossesses précoces. En Côte d'Ivoire l'an dernier, elles ont été plus de 4000, parfois âgées de 9, 10, 11 ans, à tomber enceintes alors qu'elles étaient scolarisées. Pour ces jeunes filles, cela marque généralement la fin de l'éducation, l'arrêt de la scolarité, toute une vie qui bascule. Car les droits de la femme passent d'abord par l'école. Et Euphrasie Koulibaly, présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale en Côte d'Ivoire, compte bien profiter de la plateforme offerte par le G7 pour faire entendre son combat, un combat qu'elle entend pourtant replacer dans une perspective plus large.
Combien de ces pays du G7 ont des femmes premiers ministres? Combien de ces pays ont un gouvernement qui respecte réellement l'égalité entre les hommes et les femmes? Je ne pense pas que ce soit les femmes capables d'occuper des postes ministériels qui manquent dans ces pays du G7, mais surtout peut-être que la volonté n'est pas encore assez suffisante pour pouvoir respecter cette égalité-là, que ce soit au niveau de gouvernement, que ce soit au niveau des salaires et à tous les niveaux d'ailleurs.
Car les pays du G7 sont loin effectivement de l'exemplarité. Un bouquet législatif des meilleures lois du monde pour l'égalité homme-femme va être proposé aux leaders du G7 qui devraient s'engager à mettre en œuvre au minimum une de ces législations. L'occasion peut-être de montrer l'exemple.
Un mot pour vous rappeler l'information que nous vous donnions au début de ce journal avec Christian Chesneau. Cette opération des militaires français la nuit dernière au nord du Burkina Faso pour libérer des otages, 2 Français qui avaient été pris en otage au Bénin. Ils ont été libérés, même 4 otages ont été libérés puisqu'une américaine et une sud-coréenne ont également été libérés. Mais l'opération a son versant tragique. 2 militaires français ont été tués dans cette opération. Nous retrouverons très certainement Christian Chesneau à la fin de ce journal pour faire un nouveau point.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Tout autre chose à présent, vraiment tout autre chose. Si vous êtes à table et que vous vous apprêtez à attaquer le dessert, eh bien arrêtez tout. Nous allons manger du camembert à présent dans ce journal. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans le 13h. Et cette semaine, nous accueillons l'homme qui nous parle de gastronomie, de cuisine, d'alimentation, de bons produits toutes les semaines sur France Inter. Bonjour François-Régis Gaudry.
Bonjour Bruno.
On va déguster le dimanche de 11h à midi. Nous avions besoin d'un spécialiste dans le débat sur les règles de fabrication du camembert, les critères de l'AOP. Appellation d'origine protégée, camembert de Normandie devrait évoluer d'ici à la fin de l'année. Des camemberts au lait pasteurisé, pas du lait cru, pourrait peut-être obtenir l'AOP. Alors est-ce que c'est une polémique de puriste ou pas? Je vois que déjà vous bondissez. Le meilleur moyen de savoir, c'est de goûter. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Alors François Régis, vous êtes venu avec 3 camemberts que vous allez goûter à l'aveugle, 2 lait cru, 1 lait pasteurisé. Ils sont devant vous, j'ai joué au bonneteau avec, vous ne savez pas où est lequel. Présentez-nous les 3.
Il s'agit d'un camembert de qualité artisanale, c'est-à-dire fermier,
ouais.
qui correspond évidemment au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée. Ouais. Un camembert également AOP, mais fabriqué par un opérateur industriel.
Ouais.
Et enfin, un camembert, j'ai envie de dire, de supermarché, ouais. C'est-à-dire un camembert au lait pasteurisé, qui est ouais. un camembert fabriqué en Normandie, mais qui n'a pas l'appellation d'origine protégée.
Est-ce que déjà, alors encore une fois, vous savez pas dans quel ordre ils sont, est-ce que vous voyez une différence à l'apparence?
Visuellement, c'est toujours assez compliqué parce que ouais. nos industriels ont du talent. Ils ont, vous savez, cette fleur, ce feutrage, cette oui. espèce de duvet blanc, une certaine irrégularité. Ils sont un peu ridés, ce qui pourrait être le signe d'un affinage un peu poussé. Je suis juste en train de me dire qu'il y en a un, mais encore une fois, faut être prudent, qui est éventuellement d'aspect un peu plus... d'aspect lisse. Un peu plus lisse ou régulier, ouais. c'est celui du milieu.
Okay.
Il semblerait a priori comme ça, peut-être moins artisanal ou moins rustique.
D'accord. Est-ce que vous voulez commencer du coup par celui-ci ou par un autre? Vous avez pris votre couteau, vous commencez par celui-là.
Commençons par
Faut
celui-ci.
Qu'on en... Voilà, on entend le couteau glisser. En fait, je vais goûter aussi, tenez, tiens, je vous accompagne.
Je vais juste de découper en fait, parce qu'en fait...
Ça vous donne une indication?
Oui, on peut comparer les couleurs, et là vous vous rendez compte qu'il y a okay. une variété de couleurs. A priori, la couleur du vrai beau camembert authentique de Normandie uh-huh. Doit afficher en général une couleur un peu blanc-ivoire.
Est-ce que ça vous confirme dans l'idée que le lisse c'est le plus quelconque?
Il faut rester prudent, d'accord, mais d'accord. en tous les cas, celui-ci paraît d'un blanc un peu terne par rapport aux deux des deux côtés qui effectivement présentent un blanc à la limite du jaune finalement, du okay. blanc cassé.
Blanc-ivoire, vous l'avez très bien dit.
Et ça c'est le signe effectivement d'une alimentation des vaches, d'une certaine richesse dans leur alimentation. C'est okay. souvent de l'herbe fraîche qui okay. Produit cette couleur.
On goûte ?
On goûte.
Donc on commence par celui qui est lisse et un peu plus blanc. Hein,
oui.
On va le dire comme ça.
Alors là, je peux prendre le risque. Là, il ne se passe plus rien en bouche. C'est plat en bouche, ça tombe, il n'y a pas de complexité aromatique, il y a très peu de longueur. C'est exactement comme si vous arriviez près d'une falaise et tout d'un coup, vous vous effondrez, il ne se passe plus rien.
Donc vous nous dites que celui qui était plus lisse, plus blanc, au goût, en plus, a priori, c'est le plus quelconque des 3.
Oui, il okay. est finalement assez terne et assez plat. Il
je note, monsieur Gaudry, je note.
Il manque de relief. Alors ensuite, ce qui peut être compliqué, c'est de distinguer les deux.
Ouais. Les deux autres. Alors attendez, je coupe un bout moi aussi, hein, y a pas de raison.
Là, vous voyez quand même immédiatement la différence.
Ah, le monsieur est content, là.
Ben, en tout cas, il y a une diversité, une complexité aromatique sous le palais, il se passe quelque chose. Il y a un petit peu d'amertume, il y a du sucre, il y a des arômes de beurre, très lactés.
Il y a plus d'épaisseur.
Absolument. Il y a une texture moins fuyante, qui est plus onctueuse. Ça, c'est très net. Alors que le premier, vous aviez raison, effectivement, était très fuyant en bouche. Ouais. Et si on essaie le deuxième?
Le deuxième, qui sera le troisième pour notre essai. Hop là, je coupe un bout moi aussi.
Je le trouve intéressant aromatiquement. Parce que quand vous continuez à frotter la pâte contre votre palais, vous vous rendez compte qu'il se passe des choses, que c'est assez long, il y aurait un petit problème d'affinage. C'est-à-dire que je pense que ce camembert manque un tout petit peu d'affinage et mériterait un peu de repos en chambre froide, ou dans une chambre, ou en tout cas dans une pièce tempérée, pas trop chaude, pour développer sa complexité aromatique.
Bon, donc, le lisse, blanc et goût pas terrible, c'est le plus commun. Vous avez raison.
Ça, je pense.
Et après, entre les deux, vous dites que le deuxième que vous avez goûté est meilleur que le troisième.
Je pense qu'il y a une différence d'affinage et en tout cas, j'ai tendance à penser que le mieux affiné, c'est effectivement celui-ci.
Gagné champion.
Waouh.
Voilà, c'est bon, vous avez pris le risque. Vraiment, on l'a vraiment fait à l'aveugle et vous n'êtes pas trompé. Alors, au-delà du jeu, est-ce qu'on est dans une polémique futile de puristes ou pas avec cette histoire, François?
On est dans une question d'identité, ni plus ni moins, dans un monde où toutes les productions alimentaires sont totalement industrialisées, mondialisées. On a évidemment envie de protéger nos produits identitaires. Mmh. Protéger le fromage, c'est protéger à part entière un monument, ni plus ni moins. La gastronomie, le patrimoine gastronomique, c'est de la culture à part entière. Le camembert, depuis sa naissance en 1791, inventé par Marie Harel dans le village de Camembert, a toujours été fabriqué au lait cru. Et il faudrait que ça change en 2020 ou 2021. On a la preuve, là, sous nos yeux, à l'aveugle, qu'un camembert au lait cru...
Et même moi qui ai un palais nettement moins fin que le vôtre, voilà, je vois la différence, nettement.
Ce sont pas les mêmes fromages, ouais. C'est des sensations gustatives, tout simplement, parce ouais. que le lait cru, qui est justement menacé dans l'évolution de l'appellation d'origine protégée du camembert, est porteur de vie, est porteur d'une diversité bactérienne, et on sait que ce sont les bonnes bactéries dans le lait cru qui justement vont développer les arômes du fromage. Tout le génie, tout le talent français, c'est d'avoir su, dans tous ces terroirs, créer, imaginer, inventer une diversité de fromages absolument stupéfiants. Et il faudrait que le rouleau compresseur de l'industrie vienne aplanir tout cela et aseptiser tout cela, ça me semble dommage.
Est-ce que c'est fait de votre point de vue? Je veux dire par là, est-ce qu'il est acquis que l'AOP va changer ou pas?
Non, c'est pas fait, car il y a des gens qui se battent.
Merci beaucoup François-Régis Gaudry. Vous aurez compris qu'on a un bon critique gastronomique à France Inter. Vous l'entendez tous les dimanches de 11h à midi dans On va déguster. C'est aussi deux formidables bouquins. On va déguster La France, c'est ça. C'est en librairie coédition Radio France. Merci d'être venu et d'avoir joué le jeu.
Merci beaucoup.
Et ce débat sur l'appellation camembert de Normandie qui agite le milieu politique, la gastronomie, sera tranché en novembre prochain. Le petit test, on l'a enregistré hier avec François-Régis Gaudry. Nous allons à Londres à présent. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Pas pour parler fromage, quoique, pourquoi pas, non, ça vous dit pas?
C'est moins l'ambiance ici.
Bon, hein, oui, savez. C'est ça, il me semble bien aussi. On va parler football. C'est le deuxième volet au fond, on se parlait hier, Antoine, à propos du succès du football anglais. Et on disait que peut-être ils allaient avoir quatre clubs dans les deux finales des Coupes d'Europe. Eh ben, c'est gagné. Ils font le grand chelem. Alors, comme on a un peu mauvais esprit, une petite question. Ok, quatre clubs anglais dans les deux finales, mais combien de joueurs anglais dans ces équipes?
Évidemment, vous posez la question qui fâche, Bruno. Il y a aujourd'hui, si on fait le total, 72% de joueurs étrangers dans le championnat de Premier League. Et suivant les équipes, 14, 15, 16, 17 joueurs. Donc, qui ne sont pas nés en Angleterre ou qui ont été formés ailleurs. Et c'est particulièrement flagrant d'ailleurs à Arsenal. Hier soir, ce sont deux Français qui marquent les quatre buts de la victoire. Pierre-Emerick Aubameyang, qui a aussi la nationalité gabonaise, et Alexandre Lacazette. À eux deux, ils ont inscrit 10 des 13 buts de l'équipe en compétition européenne. Sur l'ensemble des matchs et des compétitions, ils totalisent 48 frappes au fond des filets. Dans l'équipe, personne d'autre n'a marqué plus de 6 fois cette saison. C'est vous dire à quel point ils sont indispensable.
Mauvais esprit suite, est-ce que le Brexit risque de faire ombrage à ce football britannique qui gagne tout en ce moment ?
Alors c'est possible, oui. En fait, à condition que le Brexit ait vraiment lieu, il pose la question du statut des joueurs européens qui jusqu'ici pouvaient venir librement en Angleterre. S'ils doivent demander un permis de travail, ce sera beaucoup plus compliqué parce que les conditions sont très strictes. Les footballeurs doivent avoir joué régulièrement dans une équipe nationale depuis 2 ans. L'équipe doit faire partie du top 50 mondial et le salaire doit déjà être important. Ce critère du niveau de salaire risque d'empêcher quelques recrutements et il y a aussi la question des jeunes, parce que grâce à l'Europe, les jeunes qui sont en centre de formation dans des pays européens peuvent être embauchés et draftés vers l'Angleterre. Ce ne serait pas le cas, par exemple, pour un N'Golo Kanté. S'il y avait un Brexit, il ne pourrait pas signer à Leicester, puis à Chelsea. Ça pose effectivement des questions.
Merci Antoine Gignot, en direct de Londres à propos du foot français. Neymar, l'attaquant du PSG, est suspendu 3 matchs après une altercation avec un spectateur en finale de la Coupe de France. Comme promis, nous revenons sur l'information que nous vous donnions en tout début de journal. Cette opération de libération de 4 otages au Burkina Faso qui a permis de libérer donc 4 otages mais qui a tourné au drame avec la mort de 2 militaires français. L'aspect heureux d'abord de cette opération, c'est donc Patrick Pic et Laurent Lassimouyas qui avaient été enlevés au Bénin il y a une semaine qui ont été libérés. Écoutez, la mère de Patrick Pic, Denise, elle réagit chez nos confrères de France Info.
En 92, j'ai déjà perdu un fils en accident de voiture à 22 ans. Vous savez, voyant ce truc-là de mon deuxième garçon, vous savez, on a pas dormi beaucoup. Hein. Et ben, c'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu un coup de téléphone ce matin par un monsieur, je ne me rappelle plus le nom, et il m'a dit que fallait rien dire, monsieur.
Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre cette nouvelle ?
Ça me fait un choc. Ça me fait un choc, on est soulagé. Mais du moment qu'ils sont libérés, qu'ils sont en bonne santé, c'est le principal. Un soulagement, monsieur. Un soulagement, monsieur. Un soulagement.
Propos recueillis par Jérôme Jadot et le ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, salue lui avec émotion le sacrifice des deux militaires français engagés dans cette opération. Deux officiers mariniers au sein des commandos, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. J'exprime à leur famille et à leurs proches, dit le ministre, mes condoléances attristées et toute ma sympathie. Voilà pour cette information sur laquelle nous reviendrons évidemment dans nos journaux ce soir. Pour l'instant...
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Toujours sous l'influence d'un flux océanique perturbé, prévoyez un après-midi faiblement pluvieux sous un ciel bâché de la Bretagne au Pays de Loire, de la Normandie à l'Île-de-France. Ces pluies gagneront les frontières du Nord la nuit prochaine. Dans les autres régions, le temps restera instable avec des averses parfois orageuses, en particulier vers Midi-Pyrénées. Seules les régions allant du Languedoc aux Alpes et de la région PACA à la Corse conserveront un beau soleil. Les températures maximales resteront en dessous des normales dans la moitié Nord, y compris entre 13 et 18 degrés. Elles seront plus conformes dans la moitié sud pour afficher 19 à 24 degrés et n'attendez pas d'amélioration demain. Pluies ou averses parfois orageuses seront toujours d'actualité, sauf dans le sud-est bien sûr. Allez, bonne nouvelle, le soleil revient sur les côtes atlantiques l'après-midi.